Vous venez nous rendre visite à Bordeaux et je vous en remercie pour donc ce livre qui s'appelle La nuit se lève. Et vous êtes ravie d'être interviewée ?
Ah oui, absolument. Oui, j'ai l'impression d'une sorte d'échange, de bascule, de voilà, un contre-champ comme ça, où je vais admirer votre façon de faire. Je vais me reposer. C'est troublant, un peu vertigineux, c'est intéressant. Voilà, je change de rôle.
Qu'est-ce que vous avez appris dans ces interviews, justement, que vous avez données ?
Ah, écoutez, c'est fantastique. C'est-à-dire, j'ai appris tellement de choses. Mais j'ai appris que il y a des gens qui savent bien lire, et il y a beaucoup plus de gens, c'est horrible, qui lisent de façon superficielle. Et j'ai appris qu'au fond, les journalistes qui ne sont pas des vrais bons journalistes connaissent la réponse, ou veulent vous faire dire la réponse, ou veulent plaquer sur vous une réponse qui est leur fantasme, mais ne prennent pas la peine ou le temps d'attendre ce qui va advenir, voilà. Donc ça a été très très éclairant sur l'exercice de mon métier.
Pardon. C'est bien, puis ça ne met pas du tout la pression.
Non,
ça.
Pas du tout. Non, pas du tout. Et je voulais pas vous mettre la pression. Pardon.
Alors vous signez un livre qui est à la fois d'une grande tendresse et en même temps d'une grande violence. Vous arrivez à faire cet exercice étonnant. C'est un uppercut et au final, ça donne surtout un livre plein de vie. Il y a vraiment un appel à la vie absolument. Quand vous l'avez écrit, est-ce que vous aviez conscience d'écrire cet appel, ce souffle ?
Non, pas du tout. Je n'avais conscience de rien. D'abord, j'ai en préambule quand même, il faut que je vous dise que j'ai, avant d'écrire, j'ai beaucoup lu. J'ai commencé à écrire comme on prend des notes. Quand on lit, quand on prend un livre, et puis ce livre résonne, et donc vous prenez des notes. Et ces notes, c'est des petits fragments au début, ces petites phrases comme ça, sur des cahiers. Rien n'était... Je n'avais pas décidé d'écrire ce livre. Je voulais juste noter des réflexions que m'inspiraient certaines lectures. Pourquoi ? Parce que je lisais... Après, on reviendra sur peut-être le thème du livre, mais le thème du livre, c'est la maladie, quand elle vous frappe et quand vous êtes confronté à une annonce, vous avez un glaucome, et puis c'est une maladie dont l'on sait que l'issue, pas toujours, mais parfois, est la cécité. À partir de là, j'ai commencé à lire des témoignages d'aveugles ou de personnes qui ont été malvoyantes, ou des récits sur des vies d'aveugles. Jacques Lucéran, écrit par Jérôme Garcin, un théologien australien qui s'appelait John Hull, qui a écrit de manière phénoménologique sa descente dans les ténèbres. Pendant 3 ans, il a tenu son journal. Donc j'ai lu ça. J'ai lu ça pour trouver un compagnonnage. J'ai lu ça pour trouver un secours. Parce que j'étais franchement super angoissée.
Et ça vous a secouru ?
Sur le moment, ça m'a épouvantée. Honnêtement, quand je lisais le récit, le journal de John Hull, jour après jour, qui, lui, a traversé une immense dépression, parce que lui est vraiment devenu aveugle, et lui avait le sentiment de descendre comme un petit chariot au fond d'une mine, et ça s'enfonçait toujours plus loin. Je vous assure, c'est des pages qui vous coupent le souffle quand vous les lisez. Donc ça ne m'a pas du tout rassurée, ça ne m'a pas du tout aidée au début, sur le moment. Donc j'ai pris des notes. Et puis petit à petit, ces notes, quand même, m'ont fourni une aide. Ça a constitué une forme de secours. Voilà. Et c'est là où j'ai réalisé que j'allais commencer à écrire moi-même pour raconter ce qui m'arrivait. Et que peut-être ce compagnonnage avec des morts, des gens dont je m'étais nourrie du témoignage, allait pouvoir se perpétuer vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qui ont la même maladie que moi. Vous voyez, faire une sorte de chaîne comme ça, une chaîne secourable, très modeste, hein, mais c'était ça, en fait. De façon confuse, c'était ça, le propos du livre.
Dans votre cas,
le moteur du livre.
Dans votre livre, vous citez beaucoup de ces lectures.
Oui.
D'ailleurs, vous citez beaucoup de ce compassionnage. Et votre livre coupe le souffle aussi.
Écoutez, merci. Merci, mais je l'ai écrit de façon honnête. C'est peut-être ça qui coupe le souffle.
Ce n'est pas la première fois que vous écrivez quand il se passe quelque chose d'extrêmement important, un changement important dans votre vie. Vous aviez déjà écrit au moment où vous avez adopté votre fille. Est-ce que l'écriture vous permet de dire ce que vous ne pouvez pas dire oralement ?
Bah oui, comme pour tout le monde.
Non, il y a des gens qui préfèrent parler qu'écrire.
Ah, et moi, je déteste parler, la preuve, je suis là. Évidemment, bien sûr. C'est autre chose. L'écriture, c'est le temps de la rumination, enfin, entendez-moi bien, la réflexion, la mise en perspective, c'est le temps de la durée. C'est le temps, et puis c'est aussi la projection, c'est aussi la mise à distance. Il n'y a pas de mise à distance quand on parle. Quand on parle, on profère. Quand on écrit, on considère, on met à distance, on réfléchit, et c'est surtout, mais c'est ça, on met à distance.
On accepte plus ?
Je ne sais pas si on accepte. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. J'en sais rien.
À travers tous les témoignages que vous citez, il y a Simone.
Oui, il y a Simone. Vous voulez que je raconte Simone ?
Oui.
Vous voulez que je raconte Simone ? Alors, Simone, c'est extraordinaire. Et je peux même dire qui est Simone, parce que le beau-fils de Simone, maintenant, sait et a lu le livre. Alors, un jour, je vais dans un petit bistrot déjeuner. La personne qui tient ce petit bistrot, qui est une camarade, pas une amie, mais une camarade, sait que j'ai un double glaucome et me dit « Il faut que je te raconte un truc parce que mon ami Alain Finkielkraut, donc le philosophe, le penseur mécontemporain, comme on dit, de qualité, a une belle-mère, est marié à une femme qui a une maman. Cette maman a 80 ans, 82 ans. Et donc Simone, qui est donc la belle-mère d'Alain Finkielkraut, un jour, me raconte cette amie, avait mal à la mâchoire, et puis elle avait mal là, elle avait mal à la tête. Et comme c'est une dame qui est très autonome, elle ne voulait pas enquiquiner son beau-fils et sa fille. Donc elle leur dit « Bon, j'ai un peu mal à la tête ». La fille et le beau-fils disent « Simone, faut prendre du Doliprane, enfin bon, ça va passer ». Elle prend du Doliprane, ça passe pas. Enfin bref, une semaine se passe, 10 jours se passent. Simone devient aveugle. Simone devient aveugle en 15 jours, me raconte mon amie. Simone a été frappée par un syndrome qui est rarissime, qui s'appelle... Je le dis, hein, je oui. raconte. Enfin voilà, ça s'appelle le syndrome de Horton. C'est une chose rarissime, mais qui peut vous frapper. Je connais pas les pourcentages, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, 1 sur 100 000 plutôt, que les vieux généralistes... Les vieux généralistes qui connaissent disent « Oui, on l'appelait le mal du peigne. » Et l'on savait que quand quelqu'un avait mal là, on appelle ça le mal du peigne, la zone où on se peigne, eh bien, il fallait tout de suite envoyer le patient à l'hôpital pour lui faire des grosses injections de cortisone. Et là, il n'y avait pas de problème. Simone n'a pas eu cette chance. Et Simone est devenue aveugle. Donc, mon ami me raconte ça. En me disant, c'est donc Simone, la belle-mère de Alain Finkielkraut. Ils sont bouleversés. Elle est devenue aveugle du jour au lendemain. Elle lisait beaucoup. Enfin, c'est affreux. Le temps se passe. Je retourne déjeuner dans ce bistrot, ce boui-boui, avec l'éditeur de ce livre, et je lui raconte l'histoire de Simone. Je lui dis, tu vois, c'est là, c'est cette fille qui m'a raconté Simone. La porte du restaurant s'ouvre. Une canne blanche entre. Et derrière la canne blanche, bah oui, une main, et derrière la main, un corps, Simone. Je ne savais pas que c'était Simone. J'étais sûre que c'était Simone. Et elle s'assoit, cette vieille dame, qui était accompagnée par une jeune femme, et je commence à parler. Et je parle à Christophe, je lui dis, je suis sûre que c'est Simone. Et la personne, donc aveugle, se penche sur la banquette et dit, je connais votre voix, vous êtes machine de la télé. Et je lui dis, vous êtes Simone. Elle me dit oui. Mais incroyable.
Vous vous souvenez ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
De la joie. De la joie parce que c'était une coïncidence incroyable. Et puis, elle avait une allure. Elle avait un regard. Enfin, elle avait... Comme vous. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'elle avait... Elle m'a regardée, elle voyait rien. Elle voyait rien. J'ai bien vu qu'elle voyait rien puisqu'on lui coupait sa petite pizza et je crois qu'elle buvait du champagne à la paille ou un truc à la paille. Elle ne voyait rien. Elle m'a regardée comme vous regardez quelqu'un. Quand vous regardez quelqu'un avec attention, avec toute votre attention, avec tout votre corps engagé dans le regard. Elle m'a regardé comme ça, c'était merveilleux. Et elle m'a dit, c'est très très embêtant, mais il faut bien que je fasse avec. Et voilà.
Il y a dans
votre... Et je l'ai pris comme un signe.
Quel signe ?
Un signe que la vie organise des hasards qui sont absolument de l'ordre du merveilleux. Voilà, c'est très très improbable que je la rencontre.
Est-ce que vous êtes superstitieuse ?
Non, c'est pas du tout de la superstition. Ça n'a rien à voir. La superstition, c'est un truc qui est lié à la trouille. Ça n'a rien à voir. Enfin, il me semble. Hein. Non, je suis pas du tout superstitieuse. Au contraire, j'aime bien passer sous les échelles. J'avais un chat noir. Non. J'aime le 13. J'aime toutes sortes de choses qui sont associées à la superstition. Mais là, c'était pas de la superstition. Là, c'était une sorte de chose.
Un clin d'œil.
Oui.
Si j'ose.
un clin d'œil, deux clins d'œil.
Pardon.
Mais non, mais continuez. On verra bien qui gagnera à la fin dans ce petit jeu.
C'est forcément vous. Vous utilisez beaucoup ce ressort de l'humour. Vous êtes une guerrière quand même. Dans la vie en général, c'est aussi ce qui a fait votre réputation de journaliste. Vous êtes incisive, vous êtes combative. Et là, vous êtes toujours en plein combat. Mais quand même, vous baissez la garde dans ce livre. Vous vous autorisez à être triste dans ce livre.
Ben oui, bien sûr. Oui, parce que parce que perdre pas la vue, j'en suis pas là, mais avoir une maladie qui est quand même qui rend la vie quotidienne un peu plus compliquée, la diminution du champ visuel, des problèmes liés au glaucome que tous les gens qui sont malades connaissent, la nuit, on peut plus conduire la nuit, tiens par exemple là c'est sympathique ça, alors là l'éclairage là en pleine poire, vous voyez, c'est formidable. Non mais voilà, c'est-à-dire être confronté à des situations où vous vous dites oui c'est ennuyeux, c'est toutes sortes de petites choses désagréables, ça vous plus largement, ça vous confronte à la peut-être à l'éventualité de devenir malvoyant ou aveugle. Donc la perte d'un sens, la perte de quelque chose, l'impermanence, c'est une sorte de grande angoisse, de grand écroulement intérieur par moments. Ça a été des nuits blanches, des moments de nuits blanches, des vraies grandes angoisses. Ça a changé avec le temps, tout ça s'est un peu adouci, tout ça, j'ai commencé à apprivoiser ces peurs.
Avec le livre aussi ?
Avec le livre aussi, sans doute, oui. Avec les lectures, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais au début. Ces lectures, ce sentiment de compagnonnage, de ne pas être seul.
Avec des mots.
Les mots des autres.
Oui.
Les mots des autres qui ne sont que la manifestation, l'expression de l'expérience des autres. Quand j'évoquais... Georgia O'Keeffe, cette peintre américaine qui est morte très vieille à 98 ans et qui elle peignait, enfin comme Monet qui a eu le problème de la cataracte, le pauvre vieux qui voyait plus clair, qui peignait les ponts rouges, enfin bon. Mais Georgia O'Keeffe avait une autre maladie, elle avait une dégénérescence maculaire. Bon, elle pouvait plus peindre à la fin. Alors elle avait des assistants qui peignaient pour elle et puis à un moment donné ça a été fini. Elle s'est mise à faire de la poterie et les doigts voyaient. Elle disait mes doigts voient. Bon, c'est fascinant. Ça me fascine. C'est une source d'espérance.
Je voulais que vous parliez de Simone aussi, parce que dans ce livre, vous parlez de votre maman et de votre papa. Il se passe avec votre maman un moment extrêmement émouvant, qui est, à mon sens, en fait, comparable avec ce qui se passe avec Simone. C'est-à-dire que Simone a quelque chose de maternant qui vous fait un bien fou. Mmh. Que n'a pas votre maman.
Mmh. Et oui, docteur.
La sensation... Je vous en prie. La sensation que j'ai eue, c'est en tout cas la question que j'ai envie de vous poser. Quand on est malade, quel que soit l'âge qu'on a, on a besoin de sa maman.
Bah, quand on est malade, on aimerait bien qu'on vous... Enfin, on a envie d'être protégé, d'être chéri, d'être...
On revient en enfance.
Oui, je ne sais pas si on revient en enfance, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis malade. C'est pas un bobo, vous voyez ce que je veux dire,
la
différence. C'est pas un bobo, c'est pas une chute où tout d'un coup on chute au sens presque, enfin ontologique, quoi. On se rend compte qu'on n'est pas invincible, hop, on chute. Enfin, en même temps, c'est un peu pareil. Mais oui, on a besoin de sa maman. Mais maintenant, moi, je materne ma maman, donc la situation s'est inversée puisque elle a perdu la tête. Alors c'est moi qui la materne. Alors oui, c'est un recours de moins. Je sais que je ne peux pas recourir à elle, mais je le sais tellement que le besoin a disparu. C'est triste, hein ? Le besoin de recourir à elle a disparu parce que je sais que je ne peux pas compter sur elle. C'est elle qui compte sur moi.
Et votre papa ?
Et mon papa n'est plus là et il ne voyait plus clair.
Dans le livre, à un moment donné...
Non, mais c'est du Dickens, mon truc. Non, mais quand même, quoi. Non, mais attends, dit comme ça... Non, je vous jure, le livre est drôle. Enfin, on n'est pas là pour dire le livre est drôle, on est là pour... Mais non, mais c'est vrai, il ne voyait
plus... Oui, le livre est drôle, je confirme. Non. Le livre est aussi drôle, mais le livre n'est pas que drôle.
Mais parce que... Enfin, écoutez, j'ai parlé de mon père et de ma mère pour une raison qui est que d'une part, je viens... ils m'ont faite, mais aussi, l'hérédité, c'est important. Mais l'hérédité, c'est important sur un plan du point de vue médical, évidemment du point de vue littéraire, du point de vue de la condition, de notre condition humaine à nous. Mais c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie héréditaire. Et moi, il se trouve que comme mon père avait la maladie d'Alzheimer et que ma mère perdait la tête, je n'ai pas su du vivant de mon père qu'il avait cette maladie.
D'accord.
Et qu'il était aveugle d'un œil à cause d'un glaucome. Situation d'une espèce d'ironie totalement incroyable, quoi. Voilà. C'est pour ça que je parle de lui.
Mais alors, vous dites à un moment donné que vous êtes quand même aussi affecté par le fait qu'il ne vous reconnaisse pas toujours.
Oui.
Mais en revanche, vous ne lui posez jamais la question, en tout cas, ce n'est pas dans votre livre, de savoir ce qu'il ressent.
Mon père ?
Oui.
Ça passait pas par les mots. C'est compliqué à expliquer.
Vous n'êtes pas obligé.
Si. Il est mort, il avait 90 ans, il a été malade pendant 10 ans, cognitivement. Et donc, il ne parlait plus de lui. Enfin, il ne pouvait plus parler de lui, à vrai dire. Il ne pouvait que réagir et répondre à des questions qu'on lui posait. Mais il ne parlait jamais d'emblée de lui. Son intériorité était devenue inaccessible. Donc, en réalité, le seul contact, la seule façon de communiquer que j'avais, il était aveugle d'un œil en plus, et il ne voulait pas qu'on s'en rende compte. Donc la seule façon de communiquer était de s'asseoir à côté de lui et de respirer avec lui, tout simplement. Et je savais que de l'œil valide, de l'œil voyant, il regardait les oiseaux, puisque c'était tout ce qui l'intéressait au monde. Il n'y avait plus que ça qui l'intéressait. Donc je regardais les oiseaux et je lui disais, il y a un oiseau là, là il y a ça, là, voilà. Écoutez, on trouve des terrains. C'était le dernier terrain qui nous restait. C'était un terrain de communication comme un autre. Ça valait bien un autre terrain de communication.
Vous avez aussi hérité de lui cette pudeur, cette envie de ne pas trop parler de vous malgré tout.
Oui, c'est bizarre parce que j'écris, je fais de la télévision. On pourrait imaginer que je m'expose, mais la télévision est une sorte de masque et de c'est un rituel et c'est aussi un masque. Ce que je fais à la télévision, puisque j'incarne un personnage et je n'en sors pas de ce personnage.
Vous l'aimez, ce personnage ?
Je ne me pose pas la question en ces termes.
Non. En quels termes vous la posez-vous ?
Non, parce que c'est un personnage, vous savez, dès qu'on fait un peu de télévision pendant plus que quelques années, quand on est là depuis quand même quelques années, on devient une sorte de caricature, enfin d'effigie, caricature de soi-même. J'ai un vieux camarade qui s'appelle Philippe Tesson, que vous connaissez, le vieux journaliste qui est mon meilleur ami en réalité, et qui me dit, d'ailleurs on s'est connus en faisant une émission de télévision il y a 20 ans. Avec Thierry Ardisson, on était voisins, on se donnait des coups de coude comme ça. Et il me dit, évidemment, il fait toujours de la télévision, c'est un vieux cabot. Dès qu'il y a une émission de télévision, il court, il veut absolument... Il le sait, il le dit, il dit, je suis un vieux cabot. Et il me dit, on est des caricatures, je dis, parle pour toi. Mais je sais qu'il parle pour moi aussi, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Donc en fait, on est masqué, on est dissimulé, tout est grossi, excessif. Il y a plus de nuances dans la personne réelle.
Vous racontez aussi dans votre livre que vous vous interrogez sur cette position de journaliste. Mmh. Regardez. Mmh. Donc vous vous interrogez sur ce que pourrait être le mauvais œil. Puis vous balayez cette idée.
Non. Alors, je remonte en arrière par rapport à ça. C'est une maladie, le glaucome, encore une fois, qui est le cœur du livre, enfin, qui est le sujet, le point de départ. Comment fait-on, confronté à la maladie, comment fait-on pour continuer à vivre et à voir? Et comment fait-on pour compenser? Et comment fait-on pour garder une forme de joie? Alors, je me soigne, comme tous les gens qui sont malades, je prends des gouttes, je mets des gouttes. Les soins, la médecine, c'est rationnel. Et puis, il n'y a pas que le rationnel aussi. C'est-à-dire qu'à côté, la réalité a plusieurs dimensions. La réalité a des dimensions qui s'offrent à vous si on veut. Mais c'est un peu comme Simone qui arrive au moment où je parle d'elle avec mon éditeur. C'est ces signes, c'est tout d'un coup quelque chose est poreux. Il y a une sorte de. C'est la face cachée du visible. Voilà. Alors, dans cette face cachée du visible, il y a des gens, il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a autre chose. Et j'ai rencontré un ostéopathe qui est aveugle. Il est malien, il est très vieux. Il vit entre le Mali et Paris. Il est assez incroyable. Et donc, il est aveugle. Il sait ce que c'est que de compenser et de sentir et de percevoir les choses autrement. Puisque c'est ce qu'il fait. Il ne théorise pas, il le fait. Il le vit tous les jours depuis 50 ans. Il s'appelle Maman. Et un jour, Maman m'a dit, avec une sorte de sagacité d'ailleurs assez amusée, « Bon, on vous voit. » Je dis « Oui, bah oui, on me voit, oui. » Alors, les gens vous voient, mais vous ne les voyez pas. Je me disais, bah, franchement, là, si tu n'as pas dit ça. Non, je ne les vois pas. Il me disait, mais les gens pensent que vous les voyez. Et je lui dis, oui, les gens pensent que je les vois, mais ils savent bien quand même qu'il y a un écran. Oui, mais les gens peuvent peut-être vous adresser des regards malveillants, pas toujours bienveillants. Mais ça, c'était sa façon de voir les choses. Et il m'a dit, je vais vous faire une petite protection. Et il m'a fait une petite protection.
Sympa.
Une petite poudre, un truc, voilà. Et je l'ai accepté comme un geste du cœur. Vous voyez, je ne me suis pas dit, c'est idiot, ça rime à rien. Je dis très bien, alors je vais me protéger, peut-être, parce qu'il croit qu'il peut y avoir des regards poignards. Alors peut-être que c'est vrai, des regards poignards dans mon regard. Alors peut-être qu'il a raison.
Mais vous ne vous interrogez pas sur cette question?
Laquelle?
Celle-ci, sur des regards poignards.
Non.
Non. Non. De la même façon, vous étudiez extrêmement précisément ce qui vous arrive.
Oui.
Vous êtes soucieuse, au détail près, de comprendre. Ce qui est un ressort quand on est très malade, souvent on a envie à un moment donné, c'est une forme de bataille, de vraiment comprendre pour pouvoir accepter, lutter, s'organiser.
Non, mais d'abord être informé.
Déjà, enfin, certes. Déjà. Mais on voit bien qu'en fait ça découle sur un milliard d'autres choses.
Oui, oui. Quand on est malade, on veut s'informer sur la maladie. Il y a s'informer et puis ensuite il y a trop s'informer. Parfois trop s'informer est l'ennemi de, le trop d'informations devient l'ennemi de la bonne information parce que vous allez vous informer partout, vous prenez beaucoup d'avis, vous allez voir différents médecins, les médecins ne sont pas tous du même avis et vous devenez confronté, vous faites ce que certains médecins reprochent aux malades du nomadisme médical. Vous allez chercher différents avis et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus qui croire. Chacun est persuadé que l'analyse et la projection sur l'avenir qu'il fait par rapport à l'état de votre maladie et à ce qui pourrait vous arriver, chaque médecin est persuadé qu'il est à peu près raisonnablement dans le vrai. Mais ils n'ont pas tous le même avis. Et vous devenez... Et en fait, vous êtes perdu. Voilà. Donc, il y a déjà un truc intéressant par rapport à l'information, à ce trop d'information, à cette avidité d'information. Moi, j'ai vécu ça. Ça m'a perdu. Donc, je me suis un peu calmée par rapport à ça. J'ai cessé de vouloir tout savoir et d'aller sur les forums, sur Internet, d'essayer de tout comprendre. J'ai cessé de courir les médecins partout et tout le temps pour essayer de me poser un peu et de faire confiance. En fait, la question, c'est la confiance.
Ça vous a permis aussi de faire face aux médecins, parce que cette situation de maladie, elle vous met dans une grande position d'impudeur avec certains médecins, parfois.
Non, elle me met dans une position de... Enfin, elle met tous les malades
bien sûr
dans une position de vulnérabilité. Oui. On est dans une relation asymétrique quand on est malade. Alors, sauf si on est un médecin, soit malade. Mais alors, il faudrait être un médecin, il faudrait être un ophtalmologue. Non, mais voilà, je serais ophtalmologue, j'aurais un glaucome. Alors là, je serais à égalité avec l'autre. Mais en même temps, je me soignerais, je m'auto-soignerais. Bon, c'est pas le cas. Mais vous, malade, confronté à un médecin, il sait, vous ne savez pas. Vous le pensez tout puissant, ce qu'il n'est pas forcément. Mais vous, vous êtes angoisse, béance, vulnérabilité, honte, doute, affolement, peur... et puis vous avez honte aussi. Vous avez honte parce que vous voulez être aimé par le médecin. Vous voulez vous faire bien voir. C'est
ça
que je
raconte. Vous voulez être une bonne élève, oui.
Vous voulez être une bonne élève. Vous voulez, vous anticipez presque ce qu'il va vous dire. Et puis vous faites des gestes maladroits. Et puis vous posez votre dossier pas au bon endroit. Et puis, enfin, vous vous dégoûtez. Vous vous dégoûtez, vous êtes l'image même de la faiblesse et du besoin d'être aimé pour que le médecin continue à vous soigner, pour que le médecin vous dise presque des paroles magiques. Vous verrez, ça va aller. C'est pas toujours ça. Mais la relation est très compliquée parce qu'elle est totalement asymétrique et qu'elle travaille des choses vraiment archaïques, difficiles, douloureuses, liées à ça, à l'état de petit enfant, à la honte et au besoin d'être bien vu, de se faire bien voir, oui. Encore une fois. Voilà. Ouais.
Vous parlez beaucoup de la beauté aussi, du rapport à la beauté qui change tout d'un coup, pas seulement la beauté physique, la beauté du monde, la beauté, tout devient en fait, tout est regardé, si je puis me permettre, avec une acuité incroyablement différente, mais vous-même
ben oui,
aussi,
ben oui,
vous avez envie d'être encore plus belle.
Non, moi, non, c'est pas... Vous trouvez ? Dit-elle pour gagner du temps.
Je... Je pense que c'est difficile. Vous pouvez difficilement être plus belle que vous ne l'êtes.
C'est gentil.
Mais je pense que c'est normal. Je pense que ce qu'on sent dans votre livre, c'est cette envie finalement de profiter de chaque chose, de chaque instant, et aussi de chaque détail, et que du coup, ça vous amène dans des terrains que vous ne connaissiez pas, que nous ne connaissons pas.
J'ai parmi les lectures qui m'ont beaucoup aidée, alors là en l'occurrence c'est pas du tout quelqu'un qui était malade, j'ai une énorme passion, c'est une redondance, j'ai une grande passion pour un écrivain suisse voyageur qui s'appelle Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, enfin, qui a une écriture, que vous connaissez évidemment, puisque j'entends il y a un nuage d'approbation là, il y a une vague d'approbation autour de Nicolas Bouvier, et je crois que c'est dans L'Usage du Monde, il me semble, que Nicolas Bouvier disait, je résume à peu près, que pour lui le sens, enfin, lui semblait que le sens de l'existence c'était de jouir de la polyphonie du monde et d'en accepter l'impermanence. Quand il le dit, évidemment, il a vécu au Japon. Il a vécu plusieurs années au Japon, à Kyoto, à deux moments précis de sa vie, dans les années 50 et dans les années 60. Près d'un temple, il disait, je suis le concierge d'un temple zen. Il n'était pas tellement concierge, mais enfin, il était très modeste. Mais il vivait à Kyoto, notamment près d'un grand complexe de temples. Et l'impermanence, c'est vraiment au sens zen, bouddhiste zen, de l'impermanence de tout, de la vie. Mais c'est très juste. Quand on vous dit, et quand le diagnostic de la maladie qui vous frappe est une baisse de la vision, qui sera partielle, acceptable, mais peut-être d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans total, ou même avant, ça vous renvoie à ce qui compte, d'une part, dans ce qui vous enchante de ce monde, et puis à comment va-t-on faire pour apprendre à supporter l'impermanence et la perte. Donc en fait, c'est exactement ça. Comment voir, que voir, comment se concentrer. En fait, moi, je suis confrontée à ça, mais on est tous un peu quand même dans cette... pour peu qu'on se mette à réfléchir à ce qui est important, aux priorités, pour peu qu'on se mette à décanter, à hiérarchiser, à essayer de s'alléger de ce qui ne compte pas, en fait. Eh bien, on se rend compte que, oui, il faut se concentrer, il faut, d'une certaine manière, que le regard, le faisceau de notre regard intérieur et notre regard biologique, enfin organique, et nos yeux, tout ce qui engage notre façon de voir se concentre sur, sans doute, ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide, c'est-à-dire le beau. Voilà. Et à partir de là, je pense que on accepte cette idée d'impermanence.
On a aussi peut-être envie d'être beau puisqu'on a une faiblesse, donc du coup, on a envie que le reste soit parfait.
Non, c'est pas qu'on a envie d'être beau. Moi, je me suis beaucoup intéressée. Toujours, c'est cette question de la confiance. Je me suis beaucoup intéressée aux problématiques des femmes, parce que j'en ai rencontré des aveugles. J'ai une copine, enfin, pas vraiment une copine, mais une fille que je connais bien, qui est journaliste, qui a été journaliste et qui est aveugle de naissance. Et puis j'ai rencontré aussi par hasard, parce qu'on m'avait parlé d'elle, on m'avait dit qu'elle était vraiment intéressante, une psychothérapeute aveugle qui, elle, a été victime d'un accident de voiture à 25 ans et qui a perdu la vue en 4 jours. Voilà. Elle a perdu un œil et l'autre par sympathie, comme elle disait. Elle est devenue aveugle. Et quand je l'ai vue pour la première fois, cette femme, je l'ai trouvée super pimpante, super drôle. C'est elle qui n'arrêtait pas de me dire « vous voyez, vous voyez, vous voyez ». À la quatrième fois, je lui ai dit « non mais arrêtez quoi, de me dire « vous voyez », c'est dingue. Vous parlez, vous faites exprès ?» Elle m'a dit « mais non, mais je dis « vous voyez », pourquoi je dirais pas « vous voyez » ? Elle voit rien. » Mais c'est une façon de parler. Et il n'y a pas de raison qu'elle n'utilise pas le langage de tous, universel. Elle n'a pas se cantonné à un langage non-voyant. Et elle était... Je la trouvais bien apprêtée, soignée, etc. Et je ne lui ai pas posé de questions pour ne pas la gêner, mais je suis rentrée chez moi, je me suis dit, comment fait une femme qui voit mal, qui est très malvoyante ou qui est aveugle, lorsqu'elle a besoin de prendre soin d'elle, tout simplement, comment fait-elle quand elle n'a pas de reflet, quand elle n'a pas accès à un miroir, puisqu'il n'y a pas de miroir possible, il n'y a pas de vue de soi. Comment on fait ? Alors, faut-il un truchement ? Faut-il une tierce personne ? Auquel cas, quelle dépendance ? C'est la fin de l'autonomie, c'est déjà la fin, c'est déjà une perte d'autonomie que d'être aveugle ou malvoyant, mais ça veut donc dire que cette femme un homme aussi, mais une femme, parce que je suis une femme, je m'identifie, je me projette. Alors une femme a besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit « là, t'as une tache » ou « là, tu t'es foutu ton rouge à lèvres mal », or, elle était parfaitement maquillée. Donc forcément, je me suis dit, il y a une confiance en soi qui a grandi, il y a une sorte de force intérieure qu'elle a acquise par je ne sais quel miracle, par je ne sais quel travail sur elle, qui fait qu'elle n'a plus besoin de miroir. Comment cela se peut-il? Et ça m'a interrogée comment fait-on pour avoir confiance en nous-mêmes quand on ne peut plus avoir ce coup d'œil dans le miroir qui nous rassure, qui est un peu dérisoire, mais qui nous rassure aussi. Voilà. Toutes ces questions liées à la féminité et à l'absence de reflets.
Ça m'a intéressée. À plus forte raison quand on est regardé par beaucoup de téléspectateurs.
Oui, oui, mais moi, encore une fois, je ne suis pas non-voyante. Mais je me suis projetée. Le livre, c'est aussi une façon de, non pas de m'approprier une condition qui n'est pas la mienne. Ça pourrait être indécent d'ailleurs. On pourrait se dire, après tout, elle voit encore, elle voit pas bien, elle voit beaucoup moins bien, mais elle voit pourquoi se permet-elle de se mettre à la place des aveugles. C'est ma liberté, c'est mon droit, c'est mon angoisse parce que ça pourrait m'arriver, donc j'ai besoin d'essayer de comprendre par sympathie, par empathie. J'ai besoin de m'identifier. De me poser des questions. Je raconte à un moment donné que j'ai, au Japon justement, j'ai croisé un couple, lui aveugle, elle pas aveugle. Des deux, la personne la plus singulière et bizarre et douloureuse, c'était la femme qui voyait, c'était l'accompagnatrice de cet homme, la compagne de cet homme. Je la décris comme un ballon à qui on avait l'impression qu'il y avait une ficelle, on a coupé la ficelle. Elle était agitée, et je me disais, cette femme aime cet homme, il ne la voit pas. Il communique par d'autres biais, la parole, il se touche, enfin bon, mais elle n'est pas vue dans le regard de l'homme qu'elle aime, elle avait l'air dingue. Et je me demandais si elle avait l'air dingue parce qu'elle avait mal dormi, ou si elle avait l'air dingue parce qu'elle souffrait de ne pas être vue par l'homme qu'elle aimait. Voilà, c'est des questions. J'ai pas de réponse, mais c'est des questions qui nous interrogent tous, sur la façon dont on vit et dont on voit.
L'amour, vous parlez de couple, l'amour est un soutien très fort dans votre livre, votre compagnon est vraiment une force pour vous.
Oui, j'espère.
Bon, vous le souhaitez.
Il n'est pas là. C'est louche. oui, encore une fois, je n'affirme rien.
On peut rien affirmer. Vous en parlez beaucoup.
Oui, mais j'en parle un peu. Mais je j'affirme pas que c'est une. Enfin, j'affirme qu'il est là. Je n'affirme pas qu'il sera là tout le temps, y compris si jamais je perdais, je devenais malvoyante vraiment et je perds la vue. Mais parce que ça me permet d'interroger. La rencontre, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, ça passe par le regard avant tout. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, bien sûr qu'on peut prendre la main de quelqu'un si on ne voit pas le visage de cette personne et écouter sa voix. Mais l'accès privilégié, enfin, on dit c'est un poncif, c'est tellement lamentable que je vais le dire. L'œil, une fenêtre de l'âme, quoi, c'est ridicule. Mais le regard, c'est l'accès premier, souverain à l'autre. C'est comme ça que se fait une rencontre, essentiellement. Alors maintenant, il y a les écrans, mais ça, je peux en parler, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis que pour le... Voilà, je suis contre les écrans. Je fais de la télévision, je suis contre les écrans. Bon, c'est comme ça. Donc, évidemment que... Oui, ça m'interroge. Comment la confiance, le regard, comment ça se passe dans les couples mixtes, comme on dit, voyant, malvoyant. Alors évidemment, je me sers de l'homme qui vit avec moi et je nous plonge, lui et moi, dans des situations que j'imagine autour de la confiance, de la jalousie, de la rencontre, de la solitude. Voilà, pour interroger aussi ce qu'ils font d'un couple.
Oui, du plaisir aussi.
Oui, aussi, oui, bien sûr.
Du bonheur d'être côte à côte, oui, de oui, se oui. sentir, d'être... Voilà. Oui. Vous parlez aussi de l'intensité de ce qui se passe en dehors du regard. Et puis, vous citez Kafka aussi en disant, en parlant de la douceur de l'ennemi puisqu'il est installé. Puisque finalement, vous avez un autre compagnon depuis 10 ans qui est celui avec lequel vous vous réveillez quoi qu'il arrive tous les matins. C'est l'angoisse.
Enfin, c'est la maladie. Je ne dirais pas que le compagnon avec lequel je me réveille, c'est l'angoisse. Je refuse ça. Je me réveille avec la maladie, parce que la maladie, en l'occurrence le double glaucome, fait partie de moi, puisque je le vois, je le vis, je le vois, enfin je la vis, je la vois cette maladie. C'est une maladie du champ visuel, donc forcément je la vois quand je vous parle.
C'est une maladie comme on pourrait l'imaginer dans le film de Bertrand Blier, d'Audiard, excusez-moi, qui raconte cette histoire du cancer, en fait, qui est un personnage présent tout le long du film et qui l'accompagne. Est-ce que c'est un compagnon ?
La maladie ?
Oui.
Ah non, c'est pas du tout un compagnon. C'est
obligatoire.
Non, la belle image, c'est Proust qui évoquait la pieuvre.
Oui.
La pieuvre dans le corps. C'est une pieuvre. C'est un truc qui s'accroche à vous et qui devient vous. C'est pas du tout un compagnon. Le compagnon, c'est bien trop joli. Le compagnonnage est quelque chose de bien trop bénéfique. La maladie n'est pas bénéfique puisqu'elle vous détruit. Enfin, elle détruit les nerfs optiques. D'autres maladies détruisent autre chose. La maladie n'est certainement pas un compagnonnage. C'est trop beau, le beau de compagnonnage. Enfin, compagnon. Enfin, non, je récuse. C'est important, les mots. Donc, la maladie est une pieuvre qui s'accroche et qui n'écoute pas. Et vous pouvez, comme le dit Proust, et ça a été repris par un autre écrivain anglais que j'évoque à un moment donné, Christopher Hitchens, qui était un éditorialiste américain, il était anglais, mais il vivait aux États-Unis, et un moraliste qui a souffert d'un cancer, qui l'a emporté d'ailleurs, un cancer du pancréas, et qui a écrit un livre absolument admirable de mauvaise humeur sarcastique contre son cancer, qui s'appelle « Vivre en mourant ». Et c'est Hitchens qui reprenait cette image de la pieuvre proustienne pour dire cette pieuvre, alors que la pieuvre est un animal très intelligent, mais dans la vision qu'il en avait de la pieuvre qui s'accroche à votre corps, il n'y a pas moyen d'entrer en communication avec la pieuvre, et pourtant elle fait partie de vous.
Mais il n'y a pas moyen non plus d'être en guerre en permanence, parce que c'est
fatiguant. Mais il n'en est pas question. Il n'est pas question d'être en guerre. Il n'est pas question de dire... bien sûr. Enfin, c'est toujours ce langage, le langage, cette espèce de champ sémantique, guerrier, combatif, combattre la maladie, tout ce champ sémantique belliqueux. Non, il faut faire avec.
Vous citez aussi Jim Harrison et un poème vraiment magnifique.
Mais je cite Jim Harrison, le romancier américain, tout le monde... Jim Harrison, qui était borgne, comme vous savez. Jim Harrison, qui a écrit Dalva, qui a écrit... Enfin, qui était non seulement un ogre, qui aimait la bonne chère, qui aimait le vin, qui aimait la nourriture, qui aimait la cuisine, enfin, qui a raconté dans je ne sais plus quel livre qu'il avait fait un banquet qui a duré 11 heures avec Gérard Oberlé, vous savez, ce bourguignon qui avait organisé un banquet de 11 heures, 39 plats, 18 vins, enfin bon, bref, c'est un peu conséquent. Et Jim Harrison était, pour moi, est un immense romancier panthéiste, c'est-à-dire qu'il considérait que la nature, c'était Dieu, et Dieu, c'était la nature. Et il a passé sa vie à décrire sa fusion avec la nature, avec les animaux, enfin bon, c'est un romancier exceptionnel. Bon, il se trouve qu'il était borgne. Il est devenu borgne à 7 ans, il s'est pris un crayon. Il y a eu une querelle avec une petite fille dans la cour de... C'est pas très clair, mais enfin, il a vraiment perdu la vision d'un œil. Et il a compensé. Il a compensé. Et vivre ce désespoir, ça a été un désespoir. Il a été très désespéré quand il était petit de ça. D'abord parce qu'il avait le sentiment que c'était inesthétique, que ça lui donnait quelque chose de un peu monstrueux dans le visage et dans le regard. Il a surmonté, il a compensé. Et il est devenu le voyant, enfin un voyant. C'est-à-dire que son écriture est voyante. La manière dont il décrit la nature et dont il évoque le Michigan, l'Arizona, les forêts, les cabanes dans les forêts, la pêche, les animaux, les hommes, les femmes, Dalva, c'est une écriture voyante. Et pourtant, il lui manquait un œil. Donc, encore une fois, espoir.
Quels sont les mots qui vous accompagnent et qui vous soutiennent le plus, puisque vous parlez de sémantique, de mots justement qui sont tout un terrain finalement d'une grande banalité et qui ne sont pas forcément en acuité avec ce que vous ressentez?
Je vous disais, je parlais de Nicolas Bouvier qui évoquait ce qui compte. C'est ce poème de William Blake qui évoque le passage d'un oiseau dans le ciel. Ces trois petits vers de William Blake, un oiseau qui passe et c'est un monde de délices fermé à tes cinq sens. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion de privation, mais justement, la privation peut être retournée comme un gant. Et l'angoisse devant la privation d'un sens peut se retourner comme un gant si on est très attentif, très, très précautionneux, si on ne se bat pas, mais si on décide de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qui reste. Et si on décide de se concentrer, encore une fois, j'aime bien ce mot, parce que le mot de concentration, on concentre son regard sur ce qui compte. Ce qui compte, c'est les autres, ceux qu'on aime, ceux à qui on a envie de faire du bien, et ce qui est beau. Et ce qui est beau.
Les oiseaux sont aussi...
Oui, les oiseaux. Oui.
Très présents dans votre
oui,
vie.
Très présent, oui, très présents. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est
vous ne savez ça. Pas pourquoi ?
Non, je... Je ne sais pas.
C'est vous ne savez pas ?
Ma grand-mère aimait les oiseaux. J'aime les oiseaux. Je nourris les oiseaux. Non, mais c'est le chant des oiseaux, enfin, si vous voulez.
J'entends bien. Bah, en fait, on peut y lire énormément de symbolique, mais vous, voilà, spontanément, vous dites « je ne sais pas ».
Non, tout d'un coup, vous m'intimidez.
D'accord, les oiseaux. Mais les oiseaux vous accompagnent plus encore maintenant.
Oui, 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 car je les entends mieux. Non, mais c'est vrai.
Vous entendez mieux, vous sentez mieux, vous ressentez mieux.
Non, j'ai l'impression, c'est toujours ces histoires de compensation,
de concentration.
Non, de compensation.
De compensation.
Non, mais de compensation réelle, c'est-à-dire que si vous voyez un peu moins bien, le corps compense, c'est-à-dire vos autres organes compensent. Enfin, il faut espérer. Et alors. Ça peut aller très loin dans le cas, c'est pas du tout mon cas, mais des gens comme je l'évoque, puisque Jérôme Garcin avait écrit ce livre que j'ai découvert il y a 3, 4 ans, 5 ans, je sais plus, Le Voyant, Jacques Lucéran. Il était aveugle, pareil, il est devenu aveugle enfant, cet homme. Il est né dans les années 20 et il est devenu aveugle à 8 ans. Et à 15 ans, il disait « je vois avec tout mon corps ». Et il disait, Lucéran... D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on écoute son nom, Lucéran, il y a luxe dans le nom, la lumière. Et il disait aux gens qui étaient autour de lui, d'abord, je vois avec tout mon corps, mais surtout, j'ai des sensations de couleur. Mon corps sent la couleur, mon corps perçoit les couleurs. Alors ça, c'est des phénomènes très compliqués de synesthésie, j'ai absolument rien compris. C'est des trucs assez compliqués. Mais il compensait. Évidemment qu'il compensait. Ne plus voir ne signifie pas être fermé à jamais au monde qui nous entoure. Sinon, vous ne verriez jamais un aveugle dans la rue. Enfin, ces gens... l'ouïe, le toucher, l'odorat... Enfin, voilà. La perception, ce n'est pas que la vue. Ce n'est pas que la vue. On a totalement tendance à l'oublier parce qu'on avance dans le monde avec une espèce de bonne santé insolente. On se dit, on voit et c'est tout ce qui compte. Mais pas du tout. C'est pas du tout tout ce qui compte. Il n'y a pas que la vue. Voilà. Ça, c'est une grande découverte. C'est vraiment, vous allez vous dire, elle a découvert l'eau chaude. mais je le découvre. Oui. Il n'y a pas que la vue.
Voilà. Merci, Elisabeth Klein.
Merci à vous.